Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, merci pour votre fidélité. C'est l'heure de votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les écoles spécialisées pour personnes handicapées, difficultés et perspectives. C'est de cela dont il est question dans le forum d'aujourd'hui. Quelles sont les écoles spécialisées existantes au Niger pour personnes handicapées? Quelles sont les difficultés matérielles et humaines dans ces écoles et comment se présente la situation? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Seibou Audi, directeur de l'école pour sourds Hassan Banaba de Niamey, et Moutari Tagama Mamman, qui est le secrétaire à l'éducation, à la formation et à l'emploi à l'UNAN, l'Union nationale des aveugles du Niger. Nous avons également eu une interview avec Mme Ibrahim Rabi, directrice de l'école Soli Abdrahman. Pour la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons des écoles spécialisées pour personnes handicapées, difficultés et perspectives. Au Niger, il existe 4 écoles spécialisées pour personnes handicapées. Il s'agit notamment de l'école Soli Abdrahman de Niamey, communément appelée École des aveugles, de l'école Hassan Banaba de Niamey ou École pour sourds, de l'école pour sourds de Zender et celle de Maradi. Alors, nous commençons tout de suite. Je commence par à ma droite, M. Moutari Tagama Mamman, secrétaire à l'éducation, à la formation et à l'emploi à l'UNAN. Rapidement, si vous pouvez nous présenter la structure que vous représentez et l'école Soli Abdrahman.
Bonsoir. C'est l'école des jeunes aveugles du Niger, communément appelée l'école Soli Abdrahman. Je vous rappelle qu'elle est créée en 1979. Elle a commencé avec 5 élèves au début. Et présentement, elle regorge 86 élèves qui sont internés, qui dorment au niveau de l'école. Mais aussi le plan régional au niveau du Niamey, il y a plus de 200 élèves même, parce qu'on parle des classes intégratrices.
Nous donnons la parole à M. Seibou Audi, directeur école pour sourds Hassan Banaba de Niamey, présenter aussi en grosso modo l'école.
Je suis le directeur de l'école pour sourds Hassan Banaba. L'école pour sourds Hassan Banaba est créée en 1980, celle de Niamey bien sûr, à sa création avec un effectif de 15 élèves, dont 3 filles. Aujourd'hui, nous avons 173 élèves, dont 69 filles réparties dans 7 classes. Nous avons 2 classes de CI et les autres classes, cours uniques CP, CE1 jusqu'au CM2. Et je vous rappelle au passage que l'école, depuis sa création de 80 jusqu'à 2007, le plus grand niveau des élèves sourds, c'est la classe de CM2.
Jusqu'en 2007.
C'est à partir de 2007-2008 que nous avons rectifié cette injustice. Donc, ils ont commencé à aller au collège. Nous sommes 10 encadreurs à l'école pour sourds. Et à la différence de l'école Soli, notre école n'est pas internée. Mais quand même, il y a ce que nous appelons le semi-pensionnat. C'est-à-dire, l'assiette est garantie à midi. Mais les enfants ne passent pas la nuit là-bas. Et
chacun rentre chez lui le soir.
Le soir.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'admissions par an, par exemple, l'année passée et cette année?
Pour l'entrée en sixième, l'année passée, on a amené 15 élèves. Les 12 étaient admis. Et cette année aussi, on a amené 20 élèves. Nous avons eu 15 admis.
Pour la rentrée en sixième.
En sixième, oui.
Alors, M. Moutari Tagama Mamman, oui. Je le disais, secrétaire à l'éducation, à la formation et à l'emploi à l'UNAN. Vous représentez également l'école de Soli Abdrahman de Niamey. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'admissions? Même si, par ailleurs, il faut préciser qu'au niveau de l'école, le plus haut niveau, c'est le CM1.
Oui, c'est le CM1. Il y a même, je vous ai parlé au début de classe intégrale, c'est-à-dire l'école, il y a des élèves. À un certain moment, je vous ai dit, compte tenu de la situation, à partir de CE2, l'association a pensé que l'enfant peut lire et écrire en braille. Parce que l'écriture des aveugles l'a appelé braille.
Bien.
Voilà. Si, par exemple, l'enfant arrive à l'aéroport, à partir de CE2, il a appris le braille, donc on l'amène. Donc on parle de proximité, éducation de proximité. C'est-à-dire on l'amène auprès de ses parents. Et comme il sait lire et écrire en braille, donc il étudie à côté de sa famille. Maintenant, l'association a mis en place, en collaboration avec l'école, des enseignants qui sont basés à l'école et ils se déplacent, ils vont dans ces écoles pour recueillir les informations, notamment les transcriptions, ils amènent les copies des élèves qui ont écrit en braille, on transcrit en noir, c'est-à-dire en bic. Maintenant, on amène aux enseignants pour
corriger.
Et c'est la même chose pour le secondaire et même pour l'université. Donc, c'est plus de 100 élèves qui sont dans les classes intégrées au niveau des différents quartiers de Niamey.
Nous abordons la deuxième partie de cette émission. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter l'interview par téléphone que j'ai eue avec la directrice justement de l'école Soli Abdrahman, en l'occurrence Madame Ibrahim Rabi, qui se trouve en déplacement hors de Niamey. Je vous propose de l'écouter.
C'est une école à internat, donc on accueille les élèves de tous les coins du Niger.
Filles et garçons ou bien garçons seulement?
Filles et garçons. C'est une école primaire, mais on intègre les élèves à partir du CE2. On fait l'intégration, si les élèves ont des parents, donc on les intègre dans les écoles de leur quartier. Mais c'est nous toujours qui faisons le suivi des élèves. On part, on ramasse les cours, on les transcrive à notre niveau et on les renvoie encore.
Donc il n'y a pas de CM2 dans l'école solaire?
Non, il n'y a pas de CM2. Pourquoi? Il y a un problème au niveau. Si on intègre les élèves, on voit que ça ne va pas. Une fois intégrés dans les écoles ordinaires, donc il y a un problème de prise en charge au niveau des enseignants qui les accueillent. Dès qu'on dit qu'un élève non-voyant est de leur école, donc c'est un problème. Et vraiment, la prise en charge devient un problème, surtout que les enseignants, là où on intègre les élèves, ce sont des enseignants qui n'ont suivi aucune formation en matière de braille.
En braille.
Oui, en bref, les élèves sont confrontés à d'énormes problèmes. Et à un baisse du niveau au niveau du système bref. Et si le bref ne marche pas, donc vraiment, c'est un problème. C'est même ça la base. L'enfant, c'est avec ça qu'il écrit, c'est avec ça qu'il fait tout, qu'il fait les calculs, tout ça là. S'il n'y a pas un suivi au niveau, donc c'est un problème. Et on a retenu les élèves jusqu'au sommet.
À votre niveau, vous avez combien d'enseignants?
C'est 2 enseignants par classe. Nous avons 10 enseignants.
Les programmes enseignés sont les mêmes qui sont enseignés dans les autres écoles ou bien il y a des différences?
Les programmes sont les mêmes. Surtout à notre niveau, c'est le problème d'horaire. Comme c'est un enseignement individualisé, donc il y a un problème au niveau du respect des horaires. Aussi.
Par qui?
Par nous, les enseignants.
Pourquoi?
C'est un enseignement individualisé. Donc il faut passer à chaque élève, il faut passer au moment où on faisait le cours, donc il faut normalement assister chaque élève individuellement pour savoir ce qu'il écrit.
Quand vous dites qu'il y a un problème d'horaire, c'est-à-dire que vous dépassez les heures normales ou bien vous n'atteignez pas?
On dépasse à peu près 20 à 15 minutes sur les horaires officiels.
Officiel. De quoi votre école a besoin aujourd'hui pour mieux former les élèves non-voyants?
Oui, on a besoin de formation parce que certains de nos enseignants, on les affecte sans formation. Donc, c'est à nous de nous débrouiller pour leur apprendre le système braille. C'est ça le problème. Problème de formation des enseignants. Et les manuels transcrits en braille pour les enseignants non-voyants. Parce que c'est 2 enseignants en classe. Il y a un voyant et un non-voyant. Les besoins sont nombreux, vraiment. C'est un internat. Le problème de prise en charge de ces enfants hors de cours.
L'école Soli Abdrahman fonctionne avec quels moyens? Est-ce que c'est une école qui est subventionnée 100% par l'État ou bien?
Subventionnée non seulement par l'État. Encore, il y a l'appui de l'UNAN, l'Union nationale des aveugles du Niger. Vous savez, c'est eux qui ont créé l'école avec le défunt Soli Abdrahman.
Quel est votre appel, si vous en avez?
Donc, notre dernier mot, vraiment, l'État fait de son mieux, les ONG font de leur mieux, les bonnes volontés font de leur mieux. Mais nous voulons encore. Comme c'est une école à internat, on a un besoin des enseignants, du personnel d'appui pour nous venir en aide parce que nous, l'année surpassée, nous avons eu deux enseignantes qui se sont portées volontaires et avec l'appui de notre inspecteur. Donc on a eu ces enseignants-là qui aident les élèves la nuit. Ils rentrent à 15h et ils descendent à 8h. Si vraiment on a ce genre d'appui, on veut. Et puis, comme c'est un internat, il y a des problèmes au niveau de la restauration des enfants. Des fois, les choses ne viennent. Les subventions de l'État ne tombent pas autant au moment voulu. Donc, c'est ça le problème. Et donc, on exhorte encore les ONG de bonne volonté pour vraiment nous venir en aide. Bien qu'ils le font, c'est bien, mais on veut encore davantage.
Voilà, donc vous venez d'écouter la directrice de l'école Soli Abdourahmane de Niamey, Madame Ibrahim Rabi. Je vais vous demander quels commentaires. Je commence par vous, Monsieur Seibou Aoudi, directeur école pour sourds Hassan Banaba. Quels commentaires ou réactions vous voudriez bien faire sur les aspects développés par la directrice? Peut-être qu'il y a des aspects dans lesquels vous vous retrouvez au niveau de votre école.
Donc, comme vous l'avez signalé, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a apparemment presque les mêmes difficultés. Et seulement, j'ai noté ça au passage, chez nous, il n'y a pas l'internat. Donc, il y a beaucoup de parents qui nous amènent les enfants, pensant que les enfants sont internés. Et à leur grande surprise, ce n'est pas le cas, qu'ils retournent automatiquement avec leurs enfants parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas. C'est tous des parents qui sont très loin de l'école. Ils ne peuvent pas faire la navette. Ils n'ont même pas les moyens pour amener les enfants chaque jour à l'école. Et malheureusement, à cause de ça, ils ne viennent plus. Souvent, on essaye de les orienter. Parce que comme au niveau des aveugles, il y a des écoles intégratrices. Mmh. Donc, ces mêmes écoles existent aussi dans certains quartiers pour accueillir les enfants déficients auditifs. On les oriente vers ces écoles-là. Il y a d'autres qui amènent leurs enfants là-bas. Souvent, l'enfant... Quand l'enfant va et dit non, lui, c'est l'école pour sourds Hassan Banaba ou rien. Parce que peut-être c'est là-bas où il a vu que tout le monde est sourd. Donc, vraiment, il y a ce point-là. Et aussi, il y a le problème de formation dont elle a parlé. C'est la même chose chez nous. On affecte les enseignants comme ça, qui viennent des écoles ordinaires. Moi-même, qui vous parle, c'est mon cas. Donc, c'est arrivé à l'école qu'on va essayer de leur donner une formation qui puisse les encourager quand même à tenir leur classe. Et par rapport aux écoles intégratrices, je vais revenir. Vraiment, là-bas, eux, c'est l'école qui fait le suivi de ses élèves.
Au niveau de l'école Soli Abdourahmane, voilà, c'est lui de l'école des aveugles.
Au niveau de l'école pour sourds, ce n'est pas le cas.
Vous ne faites pas de suivi?
Non, on ne fait pas le suivi. Le suivi, peut-être, c'est à la charge de la division spécialisée de l'éducation, au niveau de l'éducation primaire.
Alors, quelles sont les autres difficultés matérielles et humaines auxquelles vous êtes confrontés?
Donc, j'ai parlé de l'unicité, de l'éloignement de l'école par rapport à presque 80% des élèves qui viennent de loin de tous les quartiers de Niamey.
Alors et que ce n'est pas une école internat.
Oui, et ce n'est pas une école internat. Vous voyez ce que ça peut causer comme désagrément. Nous avons aussi une capacité d'accueil très limitée parce que vous savez, les écoles spécialisées, on ne peut pas prendre un nombre pléthorique comme ça se fait dans les écoles ordinaires. On need d'aller entre 7 et au maximum 15. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes au Niger. Vraiment, souvent, on va jusqu'à, nous, chez nous, hein, souvent, on va jusqu'à 30 au CI.
Élèves par classe.
Par classe, surtout pour le recrutement. C'est une seule classe de CI. Parce que ça me fait mal. Je ne veux pas voir un parent retourner avec son enfant parce qu'il n'y a pas de place. Or, c'est un droit, un des droits les plus fondamentaux. Fait malgré nous, mais quand même, on continue à orienter les parents-là vers les écoles, les intégratrices. Et malheureusement, même les écoles intégratrices, ce n'est pas dans tous les quartiers.
Oui. Nous rappelons que les écoles intégratrices, c'est des classes qui préparent les élèves à l'inclusion, c'est ça?
Oui, donc c'est une étape, si je veux dire, les écoles
qui préparent les voilà, élèves à étape, pouvoir suivre les autres élèves.
C'est une étape vers l'inclusion.
Ouais.
Maintenant, au niveau d'une école, on prend une classe qui va accueillir les enfants handicapés. Et cette classe est prise en charge par un enseignant spécialisé.
Oui.
Voilà, c'est ça la classe intégratrice ou bien l'école intégratrice.
Intégratrice, oui.
Voilà. Et pour vous rappeler, par rapport à ça, notre première expérience, la première expérience de l'école pour Sourd Hassan Banaba a été créée, l'école pour Sourd Hassan Banaba a été créée par, avec, comment dirais-je, l'intégration, c'est-à-dire elle a été créée dans une école, l'école Gamkale 1. Donc la première expérience de Sourd, c'est l'école intégratrice. Malheureusement, vous savez, ça n'a pas été bien préparé, suffisamment préparé. Et un an après, c'était l'échec parce que il y a toujours la guerre entre les enfants entendants et non entendants. Ils étaient obligés de déplacer l'école encore vers l'école Chateaubriand. Et là-bas aussi, c'est la même situation, c'est le même problème. Toujours était dit que cette intégration n'a pas été préparée et ça a voué à l'échec. C'est ce qui a fait que finalement, ils sont obligés
de
s'orienter vers l'éducation spécialisée. Donc c'est pour vous dire que notre première expérience, c'est vraiment l'intégration. Mais comme ça n'a pas été préparé, ça a voué à l'échec.
Et voilà, et on vous continue avec la formation spécialisée.
Bon, nous, pour le moment, nous continuons l'école spécialisée. Vous savez, hein, les écoles spécialisées partout au monde, ça existe. Il y a les trois formes d'éducation en matière d'enfants handicapés.
Oui.
Mais seulement, parce qu'il y a des cas, il y a des catégories de handicap, ou bien des cas d'enfants handicapés qu'on ne peut pas amener dans une école.
Effectivement, vous avez dit que c'est les trois cas de figure de formation, c'est notamment l'approche intégratrice qui consiste à préparer l'enfant pour poursuivre, pour pouvoir poursuivre les études avec les autres les enfants non handicapés, et à l'approche inclusive qui consiste à c'est que l'école, cette fois c'est l'école qui se prépare pour accueillir des élèves handicapés avec les autres.
Voilà, c'est-à-dire il y a la forme
spécialisée
qu'on a tendance à abandonner. Mais je vous dis qu'on ne peut pas l'abandonner complètement.
Parce qu'il y a des formes d'handicap qui ne peuvent être associées avec les autres, qui méritent des prises en charge spécialisées.
Voilà. Et puis, comme l'a dit la directrice de l'école Soli, l'école spécialisée peut rester en tant que pépinière, en tant que formation de base. C'est-à-dire jusqu'à un certain niveau, jusqu'au CE, on peut maintenant orienter les enfants dans les écoles de quartier. Et bien sûr aussi, ces écoles de quartier doivent être préparées pour accueillir l'enfant. Et l'enfant qui va aussi doit être préparé pour rester là-bas.
Alors, nous donnons la parole à M. Moutari Tagama Momman, secrétaire à l'éducation à l'UNAN, l'Union des aveugles du Niger. Vous avez écouté la directrice de l'école Soli Abdourahmane. Peut-être qu'il y a des aspects soulevés par elle sur lesquels vous voudrez un peu revenir.
Oui, justement. La directrice, tantôt j'avais parlé au début qu'à partir de CE2, donc plutôt, comme on l'avait dit la directrice, c'est à partir de CM1. Donc, jusqu'à ça, on prépare l'enfant. Jusqu'à ça, à partir de ça, on pense qu'il sait lire et écrire en braille. Donc, on l'amène, comme elle avait dit, dans son quartier. Parce que, vous savez, avant, c'était l'internat était intégral. Parce que tout, c'était l'unique école à l'époque. Et tous les élèves de différentes régions de Niamey, du Niger du moins, venaient à Niamey pour étudier. Il y avait même un véhicule mis à la disposition des élèves pour le ramassage. À la rentrée, on les amène à Niamey. Une fois l'école terminée, chaque élève est ramené dans son milieu respectif, dans sa famille. Et au niveau de Niamey, il y avait un véhicule qui faisait du ramassage parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas internés, mais qui faisaient comme un système de semis. Internat, comme avait dit le directeur de l'école de Sourd, c'est-à-dire ils viennent, mais le repas de midi est garanti pour eux. Ils font journée continue après à la descente, le véhicule les ramène à la maison. Mais vous savez, au fil du temps, il y avait des difficultés. La gestion du véhicule avec l'entretien, licence. Ensuite, le nombre des élèves augmentait de telle sorte qu'il y avait des difficultés. L'association ne pouvait pas gérer, d'où l'idée qui a émergé de la création de ces classes intégratrices qui sert de point de départ pour l'inclusion, comme a dit le directeur de l'école sourde.
Par rapport à l'intégration, justement, à cette approche intégratrice, est-ce qu'au niveau de l'UNAN, vous avez fait cette analyse qu'il y a un certain nombre de difficultés autour de cela?
Oui, les difficultés ne manquent pas, parce que au niveau de ces écoles intégratrices qui accueillent les élèves, souvent, les enseignants qui sont là-bas, ils n'ont pas une notion ou ils ne sont pas préparés pour l'enseignement spécialisé. Et un élève qui est en situation d'handicap mérite vraiment une grande attention sur le plan éducatif. Parce que lui, comme avait dit la directrice, c'est un enseignement individualisé. L'enseignant est obligé de s'arrêter à chaque... parce qu'ils sont... c'est des élèves auditifs, c'est-à-dire ils ne voient pas, mais eux, ils travaillent avec l'audition.
Oui.
Donc, à l'opposé des malentendants, eux, ils le voient, mais ils n'entendent pas. Vous voyez, donc, c'est un enseignement vraiment qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et à ces différentes, au niveau de ces différentes écoles, les enseignants qui ont l'habitude de faire un cours magistral, c'est-à-dire ils ont les élèves, ils donnent la même notion. Et s'il y a 30 ou 40 élèves dans la classe, ils reçoivent le même message. Tandis qu'au niveau du non-voyant, il faut souffler, souffler à chaque élève l'enseignement. La deuxième difficulté au niveau de ses collègues élèves, souvent il y a ce qu'on appelle le système de stigmatisation. Ouais. Quand tu as un handicap, donc en attendant que l'enfant soit accepté, il a toutes les difficultés. Ensuite, il y a un autre problème. Souvent, la famille et l'enfant peut partir en retard parce que la famille dit que ah, moi j'ai une occupation, il faut que comment je vais l'amener parce que l'enfant
est non voyant.
Voilà, on l'amène le matin à la descente, il faut partir le ramener le soir. Je vous donne un petit exemple. À Zander, il y avait un élève qui était brillant, mais l'école des aveugles de Zander se trouvait à Birni et l'enfant se trouvait à Zongo. Et Zongo, de là-bas, la maman n'avait pas assez de moyens. Elle l'a amenée le matin. Au bout de quelques semaines, elle s'est fatiguée et l'enfant a abandonné l'école. Parce que c'est très difficile pour le déplacement. Elle ne peut pas avoir moyen de transport et lui, il ne peut pas aller seul. Vous voyez?
Bien. Alors, Monsieur Seibou Aoudi, directeur Hassan de l'école Hassan Banaba de Niamey, l'école pour sourds, Vous avez expliqué que vous, au niveau de votre école, n'est pas un internat. Et du coup, les élèves, ils viennent, ils passent la journée. Le soir, chacun rentre chez lui. On sait que Niamey est grand aujourd'hui. Les gens sont un peu dispersés dans les autres quartiers. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez essayé de trouver une solution par rapport au déplacement peut-être des élèves? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens ou est-ce que vous avez approché des partenaires par rapport à cet état de fait ou bien vous misez plutôt sur l'approche intégratrice qui est une suite qui permet aux élèves de rester déjà dans leur quartier?
Nous avons toujours écrit et demandé, sollicité le soutien d'abord de l'État, mais aussi le soutien des partenaires. À l'heure où je vous parle, il y a une dame qui est volontaire, elle est française. C'est elle qui amène presque 80% des élèves sourds de Harobanda au niveau de notre école.
Avec son véhicule,
au moins 15 élèves. Et en dehors de ça, il y a une ONG américaine qui nous a fait beaucoup de choses au niveau de l'école. Mais lui aussi, il intervient dans le domaine du transport des élèves d'aéroports et de la zone ligne aéroport et Gamkale. Lui aussi, il assure au moins une dizaine d'élèves qu'il amène. Pour le moment, c'est les deux là qui interviennent à l'école.
Alors, est-ce que l'école Hassan Banaba, l'école pour sourds, bénéficie d'une subvention de l'État ou est-elle financée à 100% par l'État ou à un pourcentage réduit?
Bon, subvention, peut-être moi, je vais dire, c'est l'association qui a une subvention. Nous avons ce qu'on appelle AD.
Mm-hmm. C'est quoi,
l'AD? AD, autorisation de dépenses, mm-hmm. par le ministère, au niveau du ministère de l'Éducation. Mm-hmm. Et là, dès là, nous, en tant qu'école, on reçoit ça en vivre. On paye des vivres, on nous amène à l'école. Pour quand même soutenir le grenier de l'école. Mmh. Et il y a aussi le ministère de la Population aussi, qui nous vient en aide. Et les autres volontés, et surtout en passant par la première dame Aïchatou, par son ONG qui presque chaque année, c'est régulier, chaque année nous vient en aide conséquemment aussi, en aide. Et il y a autre aussi, au niveau de l'État, c'est vraiment des soutiens en vivres, des soutiens alimentaires. Et il y a les ONG qui nous viennent en aide, eux aussi des soutiens alimentaires, mais aussi... Et souvent, ils nous offrent des formations, renforcement des capacités du personnel.
Justement, j'allais poser cette question. Mmh. Est-ce qu'au niveau de votre école, vous avez dit, par exemple, que beaucoup d'enseignants sont affectés comme ça, qui n'ont pas de formation spécialisée, qui sont affectés? Vous avez même dit que c'est votre cas. Comment se pose cette question de formation spécialisée, de ressources qualifiées pour les enseignants devant enseigner là-bas?
Merci. Et je voudrais dire que ce n'est même pas la majorité des enseignants, mais c'est presque tous les enseignants sont venus à l'école par le même canal. Ils sont tous venus des écoles ordinaires sans formation en la matière. J'ai dit c'est arrivé à l'école qu'on va trouver, demander, solliciter les partenaires pour former les enseignants. Et tout ce que nous sommes actuellement à l'école, je vous dis, tout ce que nous avons pour enseigner ces enfants-là, c'est des formations séquentielles que nous avons eues, soit au Niger, soit en dehors du Niger. Mais même moi, je dis, moi qui suis aujourd'hui le responsable de l'école, je n'ai pas eu une formation initiale en matière d'éducation spécialisée. Tout ce que j'ai comme expérience, je l'ai eu sur le terrain.
Et on sait que là-bas, c'est le langage des signes, donc ça pose problème.
Oui, et ça pose problème. Pour revenir un peu au langage des signes, parmi les problèmes que vous avez dit, c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas tout cité. Et quand on prend les enfants sourds qui viennent pour la première fois à l'école, vous allez constater que le langage, d'abord, ils sont pauvres en langage. Donc, et les langages qu'ils amènent de leur famille est différent de ce qui se passe à l'école du langage des signes de l'école. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, chez nous, l'enfant fait 2 ans au CI. C'est comme le système de bain linguistique. L'enfant qui vient directement de la famille, on le garde au CI, pour lui montrer que, voilà, si à la maison, papa se signe comme ça, voilà à l'école comment on signe papa. Après ça, l'enfant va passer au CI2. Maintenant, au niveau de la communication, comme j'ai dit, on nous amène des enseignants qui viennent directement.
Oui.
Ces enseignants qui sont venus, on ne peut pas leur donner directement une classe. Nous sommes obligés de les confier à un enseignant plus expérimenté qui va sous forme de stagiaire.
Pendant un certain temps,
pour lui donner sa classe. Oui, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, ça veut dire que l'élève qui vient pour la première fois, on le garde pendant 2 ans, pour qu'il puisse apprendre le langage standard des signes,
voilà,
qui lui permet de pouvoir étudier, de pouvoir communiquer avec les autres.
Voilà, parce que je vous dis, par exemple, si j'ai un signe standard, comment l'expliquer à l'enfant? Je vais me servir du signe local pour expliquer ça à l'enfant. Parce que comme on dit, la langue des signes, c'est aussi la langue maternelle du sourd.
Bien. Alors, M. Moutari Tagama, Maman de l'UNAN. Est-ce qu'au niveau de l'école Solé Abdrahman, l'enseignement du braille pose problème?
Oui, au niveau de l'école Soli, l'enseignement pose problème. Comme il y a des enseignants qui sont affectés au niveau de l'école, ils n'ont pas la formation initiale en braille. Donc, c'est arrivé à l'école, ils sont formés sur le temps, comme on dit, c'est-à-dire à travers l'effort de l'Union nationale des aveugles du Niger, avec ses partenaires. On trouve des formations, donc on fait des formations à ces enseignants. Et parmi ces enseignants, il y a déjà des enseignants qui ont fréquenté l'école en tant que non-voyants, école des aveugles. Eux, ils maîtrisent le braille. Donc, c'est pourquoi la directrice il vous a dit que dans chaque classe...
Il y a deux enseignants.
Deux enseignants, un enseignant non-voyant qui est censé normalement connaître le braille et un voyant qui est aussi parmi eux, il y a ceux qui maîtrisent parfaitement le braille avec la formation qu'ils ont reçue. Ensuite, comme ils travaillent en collaboration avec le non-voyant, il finit par lui aussi apprendre le braille. Donc, c'est ça, ils ne sont pas sans difficulté parce que c'est très difficile, comme avait dit le directeur de l'école de sourds. Et souvent, ils ont fait une formation, comme nous on dit, en noir, c'est-à-dire c'est pas en braille. Et sont venus, donc c'est pas la même chose que celui qui a commencé depuis le CI en braille et de devenir enseignant en braille. Quand bien même il y a des individualités, c'est la volonté des enseignants, c'est des voyants, mais avec le temps, avec la volonté, ils maîtrisent parfaitement le braille et ils arrivent à passer très bien le message à ces élèves-là.
Alors, je vais poser cette question à tous nos invités. Est-ce qu'aujourd'hui, le Niger a suffisamment d'experts dans ces deux langages, notamment le braille et le langage des signes, des experts nationaux qui sont formés, qui sont experts dans ce domaine? Peut-être allez-y d'abord, M. Tagma.
Oui. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a vraiment des experts en matière de l'enseignement spécialisé des aveugles, notamment le braille. Et nous avons un doyen, M. Adama Halidou, il fut même le directeur de l'école Soli, et il était parti à la retraite compte tenu de son expertise en braille. Et l'Union nationale des aveugles du Niger lui a cherché un contrat et il continue à encadrer des enseignants voyants et non-voyants en braille. Il y a même ce qu'on appelle l'abrégé braille, qui n'est pas donné à n'importe quel non-voyant, à n'importe quel enseignant de maîtriser ça, l'abrégé braille. Et donc, lui, il maîtrise même l'abrégé braille, parce que vous savez, le braille est en évolution. Chaque fois, il y a de nouvelles formules et il faut s'adapter pour pouvoir continuer et suivre l'évolution du monde.
C'est comme les technologies, alors.
Voilà, ça évolue.
Bien. Et de votre côté, M. Seibou Aoudi, directeur de l'école Hassan Banaba, école pour sourds de Niamey.
Merci.
Les experts en langage des signes.
Langage des signes, experts, je pense que c'est trop dire. Et si c'est experts, nous n'avons pas. Parce que la preuve, c'est les experts qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs pour nous former. Mais Dieu merci, nous avons quand même des enseignants chevronnés, engagés, qui ont vraiment un niveau impeccable. Et donc, ça, nous avons au moins 4 ou 5 au Niger, dont je fais partie. Donc, nous formons les enseignants en langue des signes et aussi nous intervenons, nous faisons l'interprétariat au niveau un peu partout, à la justice, à l'école et partout.
Bien. Alors, est-ce qu'au niveau du manuel scolaire qui est utilisé pour l'enseignement des symboles, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que vous avez des difficultés à ce niveau en termes de nombre, en termes de qualité?
Oui, bon, je vais tout parler en termes de qualité, parce que c'est des manuels conçus pour enseigner des enfants entendants. C'est-à-dire que les manuels-là ne sont pas inclusifs. Il y a des chapitres, il y a des matières qui ne conviennent pas. Donc c'est à notre niveau que nous essayons d'adapter ça à notre situation. Et ça, on le voit fréquemment en français et aussi en lecture aussi, surtout en lecture. Oui, en français, il y a des termes qu'on voit dans les textes qui quand on dit ça à un enfant sourd, il va même dire que tu mens. Parce que dans un texte en français, c'est permis de dire que le père de Moussa a pris le car pour aller à Dosso. Mais l'enfant sourd ne conçoit pas ça. Parce que lui, il voit l'action de prendre. Et il va dire que mais non, il ne peut pas prendre un car. Est-ce que vous voyez? Et ça, ça ne convient pas. Nous, au lieu de dire il a pris le car, on va dire
il est rentré.
Il est rentré. Voilà des choses comme ça. Ouais. Il y a des textes, nous sommes obligés de mimer une scène pour que les enfants comprennent. C'est pourquoi quand vous avez posé la question du matériel là, et vraiment c'est très pertinent parce qu'il faut matérialiser les leçons, surtout pour les enfants déficients auditifs. Et ils ont un sens aigu dans l'observation. Et ils ont besoin de moins de théories. Faites-les manipuler et concrétiser. Ils vont comprendre.
Est-ce qu'il y a, en dehors de manuel, il y a d'autres types de matériel peut-être qui posent problème?
Le matériel, pour les enfants, sur le matériel, c'est bon. Seulement, il y a une insuffisance. Mais Dieu merci, par là aussi, je salue au passage l'État, le ministère qui nous envoie aussi ces matériels-là.
Lequel ministère?
Le ministère de l'Éducation nationale. Primaire. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on nous voit, on nous envoie des matériels spécifiques.
Bien. Monsieur Moutari, Mam Antagama, du côté de l'école Soli Abdrahman, quel est le problème de. Est-ce que le problème de manuel scolaire se pose? Est-ce que le programme répond aux besoins des enfants non-voyants?
Oui, merci. Le programme est le même que les enfants voyants. Et en ce qui concerne la disponibilité des manuels, avant, il y avait des difficultés parce qu'on écrivait avec tablette et puis après on fait des transcriptions en amont. Mais grâce à l'appui de ses partenaires, depuis un certain nombre d'années, l'Union nationale des aveugles du Niger a bénéficié d'un studio qu'on appelle imprimerie. Ils ont une imprimerie grâce à l'ONG Force Foundation. Elle nous a doté l'association d'une imprimerie, c'est-à-dire quand on fait les élèves, quand ils font les écritures en braille, on peut le mettre en noir pour donner aux enseignants et vice-versa. C'est-à-dire en noir, il y a des machines, on met ça, nous donne des écritures en braille. Et faire même on peut faire même des bouquins, des livres en braille. Et on imprime, ça sort. Et c'est valable pour toutes les régions du Niger. Au niveau du Niamey, on imprime le manuel que l'État a mis à la disposition des élèves non-voyants. Donc c'est ça qu'on transcrit en braille et on met à la disposition des élèves.
Alors, pour finir, de quoi aujourd'hui l'école Soli Abdrahman, l'école des aveugles, a besoin pour bien former ses élèves non-voyants afin que cela puisse répondre, en tout cas, à leurs droits fondamentaux à l'éducation.
Voilà, l'école.
Les besoins fondamentaux.
Voilà, les besoins fondamentaux. Donc, l'école, d'abord, l'État fait beaucoup d'efforts. Parce que c'est l'État qui envoie, qui paye les salaires des enseignants. Et c'est l'État qui a construit les infrastructures. Grâce à l'effort de l'INAN qui tend la main au niveau de l'État et les autres partenaires de l'Union nationale des aveugles. Aujourd'hui, l'école a besoin vraiment que l'État accompagne davantage, notamment la subvention de l'école, parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'État, à travers le ministère de la Population, met à la disposition de l'école les vivres. Et c'est l'Union nationale des aveugles, c'est le fonds propre qui assure l'achat de condiments. En dehors de quelques
appuis. Donc, volet restauration.
Voilà, volet restauration. Vous voyez, oui. Donc l'association, et elle a à la charge aussi des salaires des auxiliaires de l'INAN, à savoir la secrétaire et on appelle ça les servantes, celles qui surveillent les élèves et qui préparent pour les élèves. Tout ça, là, c'est à la charge de l'association.
Et vous voudrez bien avoir une aide pour soulager ces dépenses.
Voilà, parce que pour venir en aide à l'association, parce que vu son cahier de charges, ensuite s'occuper de l'école, vu le nombre des élèves qui augmente chaque année, donc vraiment ça nécessite encore davantage de soutien.
Bien. Monsieur Seibou Aoudi, directeur de l'école pour sourds Hassan Banaba, de quoi aujourd'hui votre école a besoin pour mieux fonctionner?
Merci. D'abord, comme je disais, c'est la seule école spécialisée pour sourds à Niamey. Nous avons besoin de soutien, surtout dans le domaine du transport des élèves et aussi au niveau de la formation continue des enseignants. Parce que pour parler d'enseignement de qualité, il faut aussi des enseignants de qualité. Et nous avons aussi du soutien au niveau de la pérennisation des enseignants. Parce qu'il ne sert à rien de former un enseignant
qui va partir demain
dans une école où il n'est même pas capable d'utiliser son talent. Et en dehors de ça, nous avons aussi besoin de construction de classes, c'est-à-dire pour un peu élargir l'école, parce que comme j'ai dit, nous avons des capacités limitées et aussi il y a le problème d'internat que nous avons.
Dernière question que je pose à tous les deux, c'est pourquoi votre école s'appelle École Hassan Banaba, l'école pour sourds s'appelle École Hassan Banaba?
Merci. Hassan Banaba est le premier président de l'Association des sourds du Niger. Et comme l'école des aveugles, c'est l'association qui a créé l'école depuis 1979.
Bien. Et vous, M. Moutari Tagama, l'école Soli Abdraman, pourquoi cette dénomination?
Voilà, l'école à l'époque, à sa création, c'était École NIA, des jeunes aveugles du Niger. Comme Soli était le premier président de l'association, c'est eux qui ont créé l'association et ils ont pensé à la nécessité d'une création d'une école des aveugles. Et donc c'est vraiment un hommage rendu à ce grand homme qui a beaucoup œuvré pour l'association. On a donné son nom pour immortaliser son nom. On a donné, au lieu de l'école NIA des jeunes aveugles, on a nommé École Soli Abdraman des aveugles du Niger.
Paix à son âme, il est décédé.
Paix à son âme, voilà.
Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les écoles spécialisées pour personnes handicapées, difficultés et perspectives. Nous retenons que les trois approches d'éducation pour personnes handicapées, à savoir l'approche intégratrice, l'approche inclusive et l'approche spécialisée, sont complémentaires et aucune n'exclut l'autre. Cependant, l'éducation spécialisée est obligatoire dans certains cas de handicap qui nécessitent une prise en charge individualisée et spécialisée. Les deux écoles spécialisées dont nous venons de parler, à savoir l'école pour aveugles Soli Abdraman et l'école pour sourds Hassan Banaba de Niamey, continuent toutes les deux de se battre pour garantir le droit à l'éducation aux enfants handicapés. Les difficultés qu'elles rencontrent se résument entre autres au transport des enfants déficients auditifs, à la restauration des enfants handicapés, aux classes supplémentaires et des enseignants qualifiés pour leur enseignement. Nous étions en compagnie de nos invités, Seibou Aoudi, directeur de l'école pour sourds Hassan Banaba de Niamey, et M. Moutari Tagama Maman, secrétaire à l'éducation, à la formation et à l'emploi et à l'Union nationale des aveugles du Niger. Vous avez également suivi une interview de la directrice de l'école Soli Abdraman, donc Madame Ibrahim Rabi. Pour la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou.